La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag et c'est le moment de découvrir la solution du jour avec Dora Nana.
Aider les personnes confrontées au deuil à se sentir moins seules. Vous avez la solution, Dora. C'est une association qui s'appelle Mieux Traverser le Deuil.
Et ce sont des bénévoles qui ont décidé de faire du deuil un vrai sujet. Sans tabou, libérer la parole, apporter des solutions concrètes à toutes les personnes en fait, qui traversent ce moment difficile, la perte d'un être cher. Oui. Ils ont créé un site internet avec des conseils pour les démarches administratives, mais aussi des forums d'échange, des groupes d'entraide. Bonjour Cédric Laribaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le président de cette association Mieux Traverser le Deuil et de la plateforme éponyme. Alors mieux accompagner le deuil, on l'a dit, mieux traverser, c'était un besoin sociétal vraiment. Il y a des carences en matière d'accompagnement des personnes endeuillées aujourd'hui.
Alors je ne sais même pas comment qualifier ces carences-là en fait. En fait, tout a commencé avec un film, Et je choisis de vivre. Un film qui a été tourné dans la Drôme. Une maman, institutrice, Amande, a perdu son petit garçon et elle s'est retrouvée seule. Et elle nous a demandé donc de tourner un film avec et de lui présenter des personnes qui avaient vécu ça, qui avaient trouvé des solutions et d'en faire un film pour parler à un maximum de personnes parce qu'elle-même s'était retrouvée seule. Et on a trouvé personne pour financer ça. Donc on a pris un petit camping-car, on a tourné 10 minutes de film et on a fait un tour d'une vingtaine de salles. Et les salles étaient pleines en France.
Mais l'association existait déjà ou
non,
c'est
l'association
après...
n'existait
Alors,
pas.
Vous, vous étiez quoi en tant que quoi?
Moi, j'étais en tant que, je ne sais pas comment dire, sympathisant de Damien Boyer, qui est le producteur du film, qui a accepté de réaliser ce film.
Et donc là, vous vous retrouvez avec des gens qui viennent en masse voir ce film.
On se retrouve avec des gens qui viennent en masse voir ce film, qui disent c'est un vrai sujet, on est tout seul. Pourtant, on s'est renseigné depuis. Il y a beaucoup d'associations qui existent, souvent très petites. Pas coordonnées et souvent peu connues. On a des chiffres en France, c'est un sujet qui touche des millions de personnes.
Tout le monde.
On considère, les études montrent qu'il y a 48% d'endeuillés en France. Et sur ces 48% d'endeuillés, il n'y a que 3% qui ont pu être en contact avec des associations. Donc nous, on tourne ce film, on monte un crowdfunding. En l'espace d'un mois et demi, on lève 120 000 euros de dons individuels. C'est le deuxième crowdfunding après le documentaire, celui qui a été fait pour le documentaire Demain. Et puis on se dit, mais on peut pas, il y a un besoin immense, c'est pas possible. Et là, on va voir des organismes, on va voir des ARS, le ministère de la Santé, dans l'association régionale de santé.
Et là, on vous accueille comment?
Et qui nous disent, en fait, c'est pas un sujet le deuil.
Ah, ouais. C'est pas un sujet.
Et nous, on leur dit, si, c'est un vrai sujet.
Et vous décidez quand
et
même
on décide
à monter ce
de
site.
Monter cette association qui s'appelle Mieux Traverser le Deuil, avec, on s'est dit, pour toucher et pour pouvoir aider et pour pouvoir accompagner un maximum de personnes, utilisons-nous ce qu'on sait faire, le digital.
Alors, c'est quoi?
Et on a monté
qu'est-ce qu'on trouve?
Alors, on retrouve sur cette plateforme à la fois des vidéos, à la fois des articles et ce qui sont organisés sous forme de parcours. Donc, quand vous rentrez sur la plateforme, soit vous pouvez regarder directement les vidéos et lire les articles, soit vous répondez à un petit questionnaire qui, en fait, cible ce dont vous avez réellement besoin au moment actuel. Donc, est-ce que vous avez perdu votre femme, votre mari? Est-ce que vous avez perdu un enfant? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aide quelqu'un qui a perdu un être cher? Et donc, ce parcours permet de pousser vers la personne des articles qui correspondent exactement à son état actuel et à sa situation, et des vidéos. Et on va même plus loin, on a aussi monté des parcours pour les aidants, donc les aidants qui accompagnent des endeuillés, et on leur envoie de manière proactive pendant 5-6 jours des vidéos qui leur permettent, leur donnant des conseils pour pouvoir accompagner.
Oui, parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire face à quelqu'un non plus qui traverse cette période, comment l'aider, comment faire face à cette tristesse, que lui dire, et là, vous aider aussi.
Oui, et donc c'est un vrai sujet tabou, en fait. Hein. Ah. Et il n'y a pas longtemps, on sait tous ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec les députés, qui ont refusé au démarrage de voter sur des congés parentaux suite à la perte d'un enfant. Et ça a fait un énorme couac. Et nous, comme on leur dit, parce qu'on est depuis 15 jours avec Damien, jour et nuit avec les députés, les sénateurs, l'exécutif, le gouvernement, pour travailler sur un nouveau projet de loi. Et en fait, on leur dit, nous, on raffole de ça. Parce qu'enfin, ce sujet sort de là où on l'a mis, c'est-à-dire du nulle part, du néant. On n'en veut pas de ce sujet dans nos sociétés occidentales. Voilà. Et nous, on a l'habitude de dire, on a une phrase qui nous a beaucoup marqué, qu'on a découverte quand on a fait le film, c'est « Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants ». Et ça, c'est une réalité. Et nous, on a eu avec le film 200, on a fait 2000 salles de ciné-débat. Et chaque fois derrière, c'est des gens qui se prennent dans les bras. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui nous parle, qui nous envoie des messages. On a un forum fermé, on reçoit des messages, on reçoit des coups de fil, on reçoit des tas d'informations sur ce que...
Ça bouleverse énormément de personnes. Jean, notre coach.
On avait discuté, effectivement, j'ai compris que vous passiez beaucoup de temps à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce que le regard change depuis quelques jours ? Est-ce que votre action contribue à évangéliser autour de ce sujet ?
Il a changé les mentalités ?
Clairement, oui, clairement. Clairement. En fait, comme c'est des êtres humains comme nous tous, donc ils sont forcément tous touchés à un moment ou un autre par un deuil, plus ou moins proche. Et donc, à titre individuel, ils étaient capables ils sont très touchés, ils étaient capables d'en parler ou d'avancer, mais c'est plutôt un blocage collectif. Et donc là-dessus, on est en train de lever des vrais tabous et d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que simplement une question de congé, même si les congés, c'est un vrai sujet, mais c'est pas avec ça que l'on va travailler suffisamment et en profondeur ce sujet du deuil. Et surtout, notre objectif, c'est que plus un seul endeuillé ne puisse se retrouver seul avec sa souffrance en France. Plus un seul endeuillé. Et donc, on est en train de... Non seulement d'avancer avec la plateforme, on est et donc là, fédérer les associations pour pouvoir avoir une vraie parole au niveau du gouvernement. Et puis, on a besoin aussi d'investisseurs qui nous aident à aussi faire passer la plateforme sur un deuxième volet bien plus important pour à la fois fédérer plus d'actions dessus et aussi avoir du contenu bien plus riche pour différentes populations.
Vous viendrez nous en reparler. Ça s'appelle « Mieux traverser le deuil ». Merci à vous, Cédric Laribaud, d'être venu nous en parler.
Merci.
Restez avec nous dans La France Bouge. 30 minutes de sport par jour à l'école, c'est le souhait des ministres de l'Éducation et des Sports. Comment encourager nos jeunes à faire plus de sport ? Des initiatives ont fait leurs preuves. Nous allons les découvrir ensemble et c'est à suivre. Dans un instant, ce sera juste après le journal de 13h.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France bouge, seconde partie.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être
bon. Eh oui, on parle sport. Et jeunesse aujourd'hui dans La France bouge, proposer davantage d'exercices physiques aux enfants à l'école dès la rentrée, c'est le souhait des ministres de l'Éducation et des Sports. Et c'est aussi le dossier du jour. Toute une série d'innovations et d'initiatives sont lancées sur ce sujet. Pour en parler, nous sommes avec notre coach du jour, Jean Moreau, le cofondateur de l'appli anti-gaspi Phoenix, avec Dora Nana, journaliste à la rédaction d'Europe 1. Imaginez une salle de fitness pour les enfants dès l'âge de 3 ans. C'est ce que propose Go Baby Gym. Bonjour François Gabel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Go Baby Gym. C'est une salle de sport, c'est un concept d'éveil au sport pour les enfants âgés de 10 mois à 10 ans.
Voilà, c'est ça. Donc, je suis le cofondateur, en fait, avec mon épouse, de ce concept qui permet aux enfants, à partir de 10 mois et en relation avec les parents, parce que c'est basé sur du relationnel parent-enfant, de développer leur motricité qu'ils n'arrivent plus trop à développer actuellement. Parce que quand on voit les enfants dans leur couffin, ils sont sanglés dans la voiture, automatiquement sanglés sur le chariot du supermarché et ensuite posés devant la télé et devant des écrans.
Mais donc, à 10 mois, on peut faire quoi comme sport ?
Alors à 10 mois, en fait, on ne fait que découvrir sa motricité propre, telle que nous, on l'a découvert quand on était petit et qu'on allait grapahuter un peu partout. Mais il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes de sécurité. On ne les laisse plus assez bouger tout seul. Et donc, on leur a créé carrément un univers, un vrai paradis pour les enfants, mais pour les mamans aussi et les parents, dans lesquels les enfants, à la fois, ils sont dans un milieu très, très, très propre au niveau hygiène, au niveau sécurité.
Quoi, il ressemble à quoi l'univers ? Il y a des couleurs
c'est très grand. Coloré, donc ce sont des salles avec des modules qui sont soit des blocs de mousse, soit des mini-agrès même. On peut s'attacher, se balancer, et ensuite des petits tunnels, etc. Et l'enfant, en fait, il est là pour apprendre. Il va apprendre en jouant. Il va apprendre à découvrir ses possibilités physiques. Le plus petit va même apprendre à marcher, hein, puisqu'à 10 ans, on commence à se redresser et à marcher.
À 10 mois.
À 10 mois, pardon, oui. Le 10 ans, il va monter sur les équilibres sur les mains. Il va faire le programme du baccalauréat de gymnastique, lui. Hein. Voilà.
Donc on a une progression. Voilà. Vous voyez une progression, une évolution. Ça dure combien de temps? On peut y aller quand on veut? La salle est ouverte à tous?
Comment ça s'organise? Comme vous aviez dit, comme une salle de fitness. Donc, on a deux formules de fonctionnement. Il y a un abonnement. Donc, dans l'abonnement, on vient régulièrement sur un cours avec des coachs. Alors, les coachs, ils ont une carte professionnelle. C'est des professionnels de l'éducation physique, une formation spécifique de Go Baby Gym. En même temps, avec leur carte professionnelle, ça nous garantit qu'ils aient pas de casier judiciaire, qu'ils aient un casier judiciaire vierge. Donc, on a toutes les garanties à ce niveau-là. Et il y a un programme pédagogique donc sur l'ensemble de l'année scolaire, hein, avec des objectifs à atteindre, bon, des objectifs qui restent simples au début et qui vont vers une complexification quand même des petits mouvements qu'ils vont réaliser.
Au niveau des cours. Mais vous, quand vous dites que vous voyez l'évolution, c'est quoi? Par exemple, quand un enfant est âgé entre 10 mois et 24 mois, il y a un programme particulier que vous avez mis au point parce que ça n'existait pas, c'est ça?
Voilà,
il faut
ça.
Le dire. C'est que vous êtes totalement précurseur dans ce domaine.
Alors, on a commencé il y a 30 ans, dans le cadre d'une association. Donc, j'étais professeur d'éducation physique d'origine,
hein, près de Strasbourg, à la Vanzenau,
donc très joli village au nord de Strasbourg. On a commencé dans le cadre de l'association et effectivement, il fallait tout inventer, puisqu'à l'époque, on n'avait même pas le matériel spécifique.
Et là, c'était il y a 30 ans, on est en 89.
C'était en 89 et en fait, à l'époque, on a eu un succès immédiat, puisque c'était quelque chose de nouveau. On a commencé avec des enfants de 3 ans, on n'était pas encore sur les tout-petits, et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un manque dans ce sens-là.
Mais parce que jusqu'à 6 ans, il n'existait rien.
Il n'existait rien.
Vous avez dit, on va résoudre ce vide.
Voilà, c'était ça.
Jean.
Vos clients, ce sont les crèches, les écoles, vous passez par les parents directement?
Alors, on a 3 types de clients aussi. Donc, on a effectivement dans le public, on a les parents directement. Hein, donc, ils prennent leur abonnement de façon individuelle. On accueille les crèches. Et on accueille tout type de collectivité. On accueille même dans certains centres où on a de la place, on accueille les écoles maternelles qui viennent faire leur cycle
leur motricité
motricité dans une salle entièrement équipée.
Et donc si moi je veux venir avec mon enfant, ça me coûte combien? Est-ce que je suis obligé de rester toute la séance ou est-ce que je le laisse et que je vais le récupérer à la fin?
Voilà, alors ça dépend déjà de l'âge de votre enfant, parce que s'il a moins de 3 ans, vous resterez avec lui et vous allez découvrir avec lui comment il va se développer et vous aurez un abonnement de l'ordre de 39 euros par mois, à partir de 39 euros par mois. S'il a plus de 3 ans, vous nous le laissez, on a des coachs qui vont s'en occuper, on a un groupe maximum de 12 enfants. Pour un coach avec une personne qui aide. Qui est dans la salle, et ce qui permet, bon, les enfants, en fait, ce qu'on a mis au point, et c'est là où on a fait beaucoup de recherche et développement, c'est un concept de parcours en continu. Ah. Alors, c'est un peu le parcours du combattant, en fait, mais
c'est-à-dire
vraiment
qu'il y a un suivi, et
c'est adapté
aux enfants. Dora, je me tourne vers vous, comment le sport peut-il développer la motricité chez les plus petits?
Alors, on parle souvent de motricité fine, c'est-à-dire c'est utiliser son pied, sa main, son doigt, son orteil.
C'est de la découverte du corps.
Voilà, des mouvements précis et ça, de 0 à 3 ans, ça marche très bien. Après, il y a des sports, par exemple la natation, ça permet de mieux se situer dans l'espace, savoir où est le haut, le bas, mieux coordonner ses gestes. Le judo, pareil, c'est très très bon pour la coordination et pour appréhender aussi les contacts, les chocs physiques, anticiper les mouvements, les chutes. On ne se rend pas compte, mais tous ces sports aident énormément. Le gymnastique aussi, vous en parlez avec votre co-baby gym, pour l'équilibre, par exemple, savoir être dans l'équilibre. Puis il y a un jeu tout simplement très ludique qu'on oublie souvent et qu'on fait avec ses enfants, c'est le jeu des animaux, en fait. Tout simplement, faire des petits déplacements des animaux. Vous imitez les animaux et c'est de la motricité complète. Hein, parce que là, vous avez le saut, la marche, la course, les déplacements sur les côtés, le quatre pattes. Et motricité, c'est très important.
François Gabel, vous faites le jeu des animaux, vous, chez Go Baby Jean?
Et bien sûr, puisque en plus, on ne peut pas donner de consignes directement aux enfants, puisqu'ils ne sont pas capables de l'interpréter. Donc, on utilise toutes les consignes verbales imagées. Notamment, bon, si on leur demande de faire une tortue, de faire un éléphant, ils vont Ils vont le faire par imitation. Mais nous on a vraiment développé l'ensemble des trois motricités que vous venez de citer, notamment la grande motricité, c'est sur les grands parcours, courir, sauter, ramper, grimper, qui vont devenir tourner en avant, en arrière, etc. La motricité fine d'ajustement, où c'est de la concentration, où l'enfant va aussi utiliser des petits objets, et par la suite, ça va être un ballon, ça va être un panier de basket qui est au bout, etc. Et bien sûr, la motricité d'expression, où là, on va rentrer dans les comptines, dans les petits jeux, où ils vont apprendre à jouer, à faire l'éléphant, etc.
En 30 ans, combien de salles en France aujourd'hui ?
Alors, il y a 30 ans, on a démarré dans une association, donc on est resté longtemps sur l'association.
Vous avez créé votre entreprise 20 ans après ?
Voilà, on l'a créée en 2008 avec mon épouse, puisqu'il y avait une demande au niveau du matériel spécifique, puisqu'on est aussi concepteur du matériel.
Et donc, là aujourd'hui, vous êtes, je crois, à
alors actuellement, nous avons une vingtaine de salles.
Partout en France,
plus dans les dom-toms. Puisque la dernière qu'on a installée, c'est à Tahiti, au mois de mai. Donc, on a eu cette chance de pouvoir installer une salle à Tahiti. Également à La Réunion, à Saint-Pierre, où d'ailleurs, on est en train de faire une deuxième salle en projet. Et sur l'ensemble du territoire français, on s'est développé un peu de façon à l'opportunité au début.
En fonction de la demande,
en fonction de la demande, là où il y avait de la place, puisqu'on a une problématique quand même, c'est de trouver des locaux.
C'est combien d'espace, combien de mètres carrés chaque salle ?
On est en moyenne à 250 mètres carrés sur les salles. Et il faut les équiper, il faut surtout, on a d'énormes normes à respecter au niveau sport, petite enfance. Donc tout ça, on le maîtrise. C'est pour ça qu'on l'a développé en franchise. Parce que quelqu'un qui voudrait se lancer seul dans ce type de projet a vraiment, vraiment besoin d'accompagnement.
On va y venir sur la franchise, parce que votre voisin aussi s'est développé en franchise. On reste ensemble. On continue à parler des initiatives pour donner le goût du sport à nos jeunes.
Il est 13h18. Europe 1.
Inciter nos enfants à faire du sport dès le plus jeune âge, c'est aussi savoir nager le plus tôt possible. Apprendre à réagir dans l'eau dès l'âge de 6 mois, c'est le programme de Swim Stars. A tout de suite dans la France Bleue.
Allez, 10 secondes de récup et on repart.
Encourager nos enfants à faire du sport, on en parle cet après-midi dans La France Bouge. Et vous, dites-nous si c'est simple pour vous de les accompagner dans une pratique sportive par Twitter. Vous nous envoyez un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921, Elisabeth.
C'est un peu ça qu'on apprend chez Swimstar, Olivier Chazot. Bonjour.
Bonjour Elisabeth. Oui, effectivement, c'est ça.
L'apnée
c'est se
direct.
Jeter à l'eau.
Non, voilà, on se jette à l'eau. Vous, Swimstar, c'est le premier réseau national d'apprentissage de la natation pour les enfants et les adultes. Il faut dire qu'à l'entrée au collège, normalement, les enfants devraient tous savoir nager.
En théorie, c'est effectivement ça. Malheureusement, on se rend compte que c'est pas toujours le cas, notamment dans pas mal de quartiers difficiles. Dans le 93, dans les quartiers nord de Marseille, on est très 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 loin de ces chiffres-là. Dans certaines zones, on est à 80% de jeunes qui ne savent pas nager à l'entrée en 6e.
Mais c'est quoi savoir nager ?
Alors savoir nager, déjà, en tout cas dans la définition de Swimstar, c'est savoir se sauver et ensuite être autonome. C'est ça qui est important. Mais dans un premier temps, nous, notre credo, c'est savoir se sauver. Et c'est vraiment ce point-là qui est essentiel.
Donc, vous avez développé des programmes pour apprendre à nager pour les enfants dès l'âge de 6 mois jusqu'à 36 mois. Il y a un programme qui existe avec Swimstars.
Alors, effectivement, là, on est dans le bébé nageur. On est dans un moment qui est super sympa. C'est-à-dire, c'est un moment de bonding, de lien entre parents et enfants. Le bébé nageur, c'est hyper important de créer ce lien, et l'eau, c'est un endroit parfait pour ça. Entre 6 et 18 mois, on est vraiment dans le lien. Entre 18 et 36 mois, on est dans la continuité. Et après ces 36 mois, on a 3 ans. Et on est dans une zone un peu de flou. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui savent courir, qui savent faire du vélo, qui savent parler, et qui continuent de se noyer. Nous, ce qu'on a voulu, c'est justement, on est parti d'un constat assez simple, c'est de se dire, il y a trop de noyades en France, tous les étés, on a des chiffres qui n'arrêtent pas de gonfler, c'est proposer une solution claire par rapport à cette problématique.
Vous avez constaté qu'effectivement, il y avait le nombre de noyades n'arrêtait pas de grandir. Et dans un pays comme la France, on a quand même un accès à la natation hyper facile.
Alors, on a accès aux piscines. Tout le monde, je pense, peut se payer une entrée de piscine à 3 euros. C'est tout à fait faisable. Par contre, on a un problème de système. En tout cas, c'est le constat qu'on fait. C'est qu'en France, on apprend à nager à 6 ans. Et avant, on a parlé du bébé nageur, on a du jardin aquatique, on a des professionnels qui individuellement font du super boulot, mais par contre, on n'a pas de façon systématique un apprentissage du savoir se sauver dans toutes les structures.
Mais l'enfant n'a pas forcément la bonne coordination des mouvements pour apprendre à nager avant 6 ans, ça existe aussi. Enfants, on a beau leur apprendre avant 6 ans, c'est une histoire de coordination des mouvements.
Alors effectivement, l'enfant a besoin d'un schéma corporel suffisamment développé pour pouvoir apprendre à nager. 6 ans, c'est assez tard. Nous, on estime qu'un enfant, à partir de 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, est totalement capable d'être non seulement en sécurité, mais aussi autonome dans l'eau.
Savoir faire le petit chien, on dit souvent, la nage du petit chien, c'est un peu aussi ce qu'on peut apprendre. Éviter de se noyer quand même malgré tout, rejoindre le bord, même si on n'a pas toute la coordination des mouvements.
Absolument. Donc le petit chien, c'est un moyen très simple de pouvoir se déplacer dans une piscine. Nous, on a lancé justement, on parlait du bébé nageur, on a lancé un programme qui s'appelle le programme Auto Rescue, savoir se sauver.
Se sauver de la noyade.
C'est se sauver de la noyade, absolument. L'idée de l'Auto Rescue, c'est quoi? C'est que en fait, la plupart des noyades se déroulent où?
Dans une piscine privée.
Absolument. Elle ne se déroule pas dans 3 mètres de vague. Elle se déroule dans une piscine privée. Concrètement, une noyade, c'est vous rangez vos courses, votre enfant échappe à votre vigilance.
Et là, le drame peut survenir.
Ah, absolument.
Vous enseignez donc, vous proposez des formations pour pouvoir, même pas devenir un grand nageur, mais savoir sortir la tête de l'eau et savoir s'agripper au bord et savoir se sauver sa peau.
Exactement. Faut savoir que la noyade, c'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans. Chez les moins de 4 ans, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Concrètement, comment ça se passe? L'enfant, en fait, se rapproche du bord parce qu'on a oublié de mettre l'alarme, on a oublié de mettre la barrière, parce que ça ne fonctionne pas.
Et vous permettez à l'enfant de se sauver. Combien d'enfants ont-ils appris à nager grâce à Swimstars?
Alors, Swimstars existe depuis 3 ans, et en 3 ans, on a eu plus de 15 000 personnes qui sont venues dans nos cours.
15 000 personnes. Jean Moreau, ça vous inspire?
Oui. Vous avez eu des témoignages de gens qui disent « Merci, vous avez sauvé la vie de mon enfant », des textos, des mails. Vous avez évité des accidents, vous savez le chiffrer ou pas encore?
Alors absolument, on a énormément de témoignages à ce niveau-là. Justement, j'en recevais un hier soir sur LinkedIn qui me disait que sa petite fille avait appris les gestes qui sauvent chez nous dans le cours Auto-Rescue. L'Auto-Rescue, je vous disais, c'est nager, flotter, nager, sortir de l'eau. On parlait tout à l'heure du petit chien. Un enfant, en fait, en faisant le petit chien, en se retournant sur le dos, c'est quelque chose d'assez simple. Et en quelques cours, il est totalement capable d'apprendre ces gestes-là.
Mais c'est quoi votre méthode? Vous dites en quelques cours, l'enfant sait flotter, sait nager. C'est quoi votre particularité par rapport à un maître nageur traditionnel?
Alors, la particularité, c'est on n'a pas plus de particularités. Ça, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est simplement de donner les bonnes informations et de le rendre systématique. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, on oriente les cours sur la sécurité. Vous avez l'objectif, c'est pas le déplacement, ça va être la flottaison. Donc clairement, dans nos cours, on apprend d'abord à flotter et ensuite on apprend à se déplacer. Et en fait, si vous voulez, de toute façon, ce qu'on fait dans les cours auto-rescue, c'est la première étape de l'apprentissage de la natation, c'est la respiration, l'équilibre, le déplacement.
Donc vous n'apprenez pas à nager, vous n'allez pas apprendre une technique de brasse, une technique de nage, vous apprenez d'abord à flotter.
Pas à 3 ans, vous l'avez soulevé tout à l'heure, un enfant à 3 ans n'est pas capable de faire du papillon ou de la brasse, ça c'est évident.
Donc d'abord vous leur apprenez à flotter.
Exactement.
Jean.
Et moi je voulais revenir sur votre parcours aussi parce qu'il est assez riche et je pense qu'il intéressera les auditeurs. Vous avez commencé en tant que sportif de haut niveau et puis ensuite vous avez été multi-entrepreneur, vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors effectivement j'ai commencé par un sport qui s'appelle la natation.
Et vous avez été maître nageur sur les plages de la Cano.
Je l'ai été, j'ai été maître nageur à la Cano et j'ai fait du sauvetage sportif en fait dans le Tarn où j'ai grandi. Et donc ça a été un peu le fil conducteur de toute ma vie, c'est-à-dire faire du sauvetage. Et l'idée aujourd'hui c'est la continuité de tout ça. Sauvetage, natation, où j'ai évolué, sauveteur sur les plages, maître nageur, et donc aujourd'hui à Swimstars.
Dora, que font les écoles sur ce sujet de la prévention de la noyade? Parce que oui, il faut faire du sport, c'est important pour nos enfants, c'est important de nager, mais effectivement, et heureusement que Swimstars existe, il faut aussi prévenir cette noyade.
Il faut prévenir, et quand on entend que c'est la deuxième cause de mortalité, la noyade chez les 0-4 ans, eh bien le ministère des Sports a décidé de s'engager davantage justement pour lutter contre ce fléau en développant le plan Aisance Aquatique. Alors, c'est sur le principe, vous savez, des classes bleues. C'est destiné aux jeunes enfants de maternelle pour qu'ils se familiarisent avec l'eau pendant une semaine. Alors ça a déjà été expérimenté dans certains territoires via des associations sportives, et les écoles maintenant vont pouvoir s'y mettre et être accompagnées. Le professeur pourra être pilote de projet et engager les élèves de sa classe en lien avec une association qui mettra toutes les conditions d'accueil durant la semaine qui seront nécessaires.
On reste ensemble, on continue à parler sport et jeunes sur Europe 1.
Il est 13h28.
Le sport, c'est la fabrique du collectif, c'est la fabrique du vivre ensemble. Le sport, c'est l'école de la vie. Tous les détails avec le président de l'Agence pour l'éducation par le sport. Et c'est ça aussi, la France qui bouge.
On parle de sport cet après-midi sur Europe 1, de sport pour nos enfants avec des solutions pour les encourager à en pratiquer. On attend vos réactions, vos questions peut-être pour nos invités. Vous tentez par Go Baby Gym, cette salle de sport pour enfants, ou par Swimstar pour apprendre aux plus jeunes à nager. Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921.
Oui, parce que le sport permet l'inclusion. C'est un lieu d'éducation hors normes. On apprend la solidarité, on apprend à se dépasser. Et c'est avec ce postulat que vous avez cofondé, Jean-Philippe Assanzi, l'Agence pour l'éducation par le sport. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes le président de cette Agence pour l'éducation par le sport. Avec vous, grâce à votre agence, grâce à vos initiatives, le jeune ne peut pas décrocher. Parce que par le sport, vous allez l'aider à trouver un emploi et à s'insérer dans la société.
Oui, c'est le postulat de départ que de dire le sport est une très très grande école où on apprend à se fixer des défis, où on apprend à fraterniser, où on apprend à se maîtriser. Donc sur ces apprentissages-là, nous on a construit un parcours qui permet à des jeunes qui sont passionnés par le sport, mais pas forcément du sport de haut niveau, de créer des parcours qui vont du club sportif jusqu'à l'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que ça cartonne partout en France et que on espère le développer, surtout dans les zones où, malheureusement, les taux de chômage sont extrêmement importants.
Alors, vous avez monté un programme d'insertion, finalement, de ces jeunes pour leur montrer que le sport, c'est l'école de la vie. C'est ça, c'est un programme.
C'est ça, c'est un programme. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les clubs sportifs, sur les éducateurs qui transmettent ces valeurs. On source ces jeunes dans les clubs de sport. Et nous, on a tout un mois de formation où on va travailler sur la confiance en soi, où on va travailler sur le lien avec l'entreprise. Et comme ça, tout à fait naturellement, on l'amène vers l'entreprise. Et l'originalité, c'est que les entreprises nous ouvrent des postes.
Vous les contactez au préalable, j'imagine. Vous avez des entreprises qui vous suivent d'abord.
La promesse est importante. C'est-à-dire quand on va chercher des jeunes, c'est qu'on a des entreprises derrière. On a par exemple, en 5 ans, mis 300 jeunes au Crédit Agricole et à LCL. Donc ça veut dire les entreprises nous font confiance parce qu'on leur dit...
Ils venaient d'où ces jeunes? C'était quel profil?
Variable, globalement échec scolaire. Et on peut avoir un échec scolaire et,
moyenne d'âge.
Et ne pas avoir raté sa vie. 18-30. Donc on va chercher ces jeunes-là parce que, vous savez, dans la plupart de ces territoires oubliés, le lien avec l'entreprise se fait de plus en plus difficilement. Et nous, c'est la promesse que l'on fait. On dit à l'entreprise, on va sourcer ces jeunes... On va les former, on va les adapter à vos métiers. Et puis après, une fois qu'ils rentrent dans l'entreprise ou ils signent un contrat d'apprentissage, on a un tutorat. Et ce tutorat, c'est l'éducateur sportif qui l'assure.
Alors, il fait quoi l'éducateur sportif pendant ce mois de formation?
Il travaille sur des notions assez simples, la confiance en soi. Par le sport. Comment se fixer des défis. Comment mettre en place, par exemple, à Roubaix, on travaille beaucoup avec l'association Parcours, vous savez, l'art du déplacement, qui accueille plus de 200 jeunes. Donc, on travaille tout simplement sur des notions assez simples qui font que le jeune prend confiance en lui, prend confiance de ses qualités. Parce que ce qui est important, c'est de révéler son talent.
Mais le sport, il intervient où, à ce moment-là?
Partout.
Mais par exemple?
Partout, c'est le fil conducteur. C'est-à-dire que... Déjà, il est sportif. Donc, quand il est sportif, il a déjà... intrinsèquement ses qualités, c'est-à-dire qu'il sait travailler, on met assez peu en avant ce qu'on apprend dans un club de sport. La club de sport, c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est la fabrique du nous, c'est la fabrique du collectif. Donc déjà, ces jeunes-là, ils ont un certain nombre d'apprentissages
qui sont déjà ancrés.
Qui sont déjà ancrés et qui vont être très très utiles dans l'entreprise.
Le Comme club par du exemple, sport. Qu'est-ce qui peut être utile dans l'entreprise que l'on apprend au sport?
Le défi permanent. Toutes les semaines, vous avez une rencontre sportive. Vous vous préparez, que vous soyez dans une division inférieure ou au championnat du monde, toutes les semaines, vous préparez un match. Et comme dans l'entreprise, vous avez des défis, des objectifs, vous fixez des objectifs. Donc tout ça est assez naturel. Et nous, on lui fait prendre conscience de ça et on lui fait prendre conscience de ses qualités.
Que dit notre coach, Jean?
Déjà, bravo, parce que c'est une très belle initiative. Et ensuite, je me posais la question de... Comment on peut vous aider? Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Est-ce que c'est de trouver des coachs, des éducateurs? Ou est-ce que c'est de trouver des jeunes? Est-ce que vous avez aussi un souci de parité? Est-ce qu'il vous faut plus de jeunes filles? Comment on peut vous aider en fait?
C'est-à-dire que les coachs, il y en a par milliers partout en France et on est en train de valider un métier de coach d'insertion par le sport. J'allais dire, là où vous pouvez nous aider, c'est les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises...
Appel aux entreprises. Qu'elles
comprennent qu'on peut recruter différemment. Qu'on peut recruter des jeunes sans diplôme, par le talent. Et ce qui manque aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup de jeunes qui sont désespérés parce qu'elles n'ont pas ce lien avec l'entreprise. Et donc, nous, on crée cette forme de sécurité où on dit à l'entreprise, venez. Vous savez, dans la plupart des territoires oubliés, on a des jeunes qui sont sur le toit du monde, qui sont champions du monde de football, des filles qui sont en équipe de France de hand, etc., au plus haut niveau. Donc, ça veut dire que dans l'entreprise, il n'y a pas de raison que ces talents-là ne s'expriment pas dans les grandes entreprises.
Il y a des jeunes ou une histoire d'un jeune qui vous a particulièrement marqué, qui est parti de... Il avait complètement décroché et là, il a réussi, il a un beau poste.
On a un des jeunes qui maintenant dirige un crédit agricole à Marseille. Et quand on avait démarré, c'était un jeune qui avait du mal à se canaliser, qui était un rugbyman. Et donc, en 2 ans, il est directeur d'agence. Vous savez, pour être directeur d'agence, il y a un parcours, c'est entre 3 et 4 ans, et lui, il a gravi tous les échelons, donc preuve que sa capacité d'adaptation, on parle beaucoup des soft skills, du savoir-être, quel meilleur espace que le sport pour apprendre ce savoir-être.
Votre prochain projet, je crois que c'est Ambition 2024, c'est ça?
Écoutez, on accueille un grand événement que seront les Jeux Olympiques en 2024, donc nous en 2024, on s'est fixé comme objectif d'insérer 5000 jeunes sur une centaine de territoires. Donc on travaille avec l'Association des maires de France où on va s'associer avec une centaine de villes.
D'ailleurs, vous avez signé un accord avec les 100 futurs maires.
Exactement.
Après les élections municipales.
Après les municipales.
C'est formidable. Qui vont accepter de s'engager pour l'insertion des jeunes par leur sport sur leur territoire, dans leur ville.
Exactement.
Mais c'est formidable.
Ça l'est, oui.
Comment vous financez?
Écoutez, une partie, les entreprises, puisque ça fait partie des ressources humaines, c'est-à-dire qu'on recrute différemment. Une partie, l'État, puisque c'est aussi l'objectif des régions, des départements et des collectivités locales. Donc c'est un modèle économique mixte entre le privé et le public.
Dora, je me tourne vers vous. Il y a d'autres associations qui ont fait du sport un vecteur d'insertion sociale.
Oui, comme Jean-Philippe Asensi et son agence de l'éducation par le sport. Il y a Sport dans la ville, c'est une association d'insertion également par le sport. Ils vont à la rencontre des jeunes de 6 à 25 ans en implantant et en proposant des animations au cœur de leur quartier. Parce que c'est ça qui est important, c'est que tout se fasse sur place aussi, avec la mise en place de sorties, de séjours. En fait, tout simplement, on s'aperçoit que c'est sortir aussi de son environnement quotidien. C'est un levier, en fait, pour susciter l'envie chez les jeunes, l'envie de se dépasser, l'envie de croire en ses chances, l'envie de réussite, l'envie de travailler, tout simplement.
Vous, Jean-Philippe Asensi, vous avez des antennes aussi dans plein de territoires oubliés. Vous pouvez nous en citer quelques-unes. Je crois qu'il y en a des centaines.
Oui, on est en Haute-France, on est à Roubaix, on est en Île-de-France, on est à Chanteloup, à Mantes, au Mureaux, on est au Havre, on est à Marseille, on est à Vaux-en-Velin, on est à Villeurbanne. Voilà, de très très belles destinations où on a beaucoup de talent. Qui attendent les entreprises.
Et une fois inséré dans l'entreprise, une fois que le jeune a décroché son précieux CDI, vous le suivez? Vous avez des nouvelles? Vous le voyez régulièrement? Vous continuez parfois à le coacher?
C'est obligatoire parce qu'il devient un peu ambassadeur de la cause. Et puis quand il rentre dans l'entreprise, on tient beaucoup à mettre en place le tutorat, le triple tutorat entre son éducateur sportif, son entraîneur, nous, et l'entreprise qui continue à le suivre pendant au moins 1 an. Et puis après, ils viennent. Voilà, on a les anciens des différentes promos qui nous aident à porter le message.
Porter le message. On reste ensemble, on continue à parler sport et jeunes dans La France Bouge.
Il est 13h38.
Europe 1.
Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions. Pensez-vous que c'est réaliste de pratiquer 30 minutes de sport par jour à l'école, comme le souhaite le ministère d'Éducation nationale? Quel sport font vos enfants? Écrivez-nous sur Twitter vos questions, vos suggestions. Créateurs d'entreprises, lancez-vous. La France Bouge avec BNP Paribas. Et dans La France Bouge cet après-midi, on parle de sport chez les plus jeunes. Le gouvernement veut mettre en place 30 minutes de sport par jour à l'école. Comment encourager la pratique sportive chez nos enfants? On en parle, Elisabeth Assayeg, avec vos invités.
Oui, nous sommes avec Jean Moreau, le fondateur de l'appli anti-gaspi Phoenix. Hein, vous êtes le coach du jour avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1 et avec nos invités entrepreneurs, avec François Gabel, le fondateur de Go Baby Gym, une salle de sport pour les enfants. Âgé de 10 mois à 10 ans, Olivier Chazot, le fondateur de Swimstars, le premier réseau national d'apprentissage de la natation pour les enfants, et Jean-Philippe Assenzi, le président de l'Agence pour l'éducation par le sport. Ces activités que veut faire le ministère de l'Éducation nationale, 30 minutes de sport par jour, adaptées au contexte de chaque école, est-ce que cela vous semble réalisable? Qui veut répondre? François Gabel.
Évidemment, comme nous, on s'adresse tout de suite aux plus petits, on leur donne une habitude. C'est-à-dire, on leur donne une habitude même d'hygiène de vie, de fonctionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même les parents se rendent compte qu'un enfant qu'on va mettre en situation de développement sur une activité et sur une pratique physique va forcément y prendre goût. Le cœur, le moteur de tout ça, c'est la motivation.
Et on l'acquiert dès le plus jeune âge.
Et on l'acquiert dès le plus jeune âge.
Mais alors, ce sera simple pour des enfants en CM1, CM2, là, de tout de suite de se mettre à 30 minutes de sport par jour, compte tenu qu'il y a des devoirs le soir aussi?
C'est une question de rythme de vie aussi. C'est-à-dire que dans une journée, pouvoir casser le fonctionnement scolaire traditionnel avec une activité physique leur permettra aussi de se reconcentrer par la suite pour d'autres activités.
Dora, justement, le gouvernement a l'intention de faire bouger les écoliers à la rentrée prochaine. Ils veulent quoi précisément?
Alors, ces 30 minutes d'activité physique par jour, elles seront proposées sur la base du volontariat. Mais par exemple, ça peut être, ils ont évoqué le fait que pendant les récréations, on revienne à des jeux de notre enfance comme l'épervier, la marelle, la balle aux prisonniers. Ça fait courir, bouger, ça permet de se dépenser et aussi créer des pauses actives entre deux leçons de classe, par exemple avec des exercices d'étirement, des choses toutes simples mais qui permettent aux enfants de se défouler un peu et puis de mieux se concentrer pendant les cours.
Jean-Philippe Assenzi, je ne vous sens pas tellement
écoutez,
d'accord.
Écoutez, ça fait 15-20 ans qu'on entend ça à chaque fois, une demi-heure. Évidemment que c'est une priorité nationale et que de la dépervier, je veux bien, mais il faut surtout des professionnels.
Et des défis à relever, parce que vous parliez de défis pour l'entrepreneuriat.
Il faut que ce soit extrêmement ludique. Moi, j'ai ma fille, à chaque fois qu'elle revient de l'école, j'ai pas fait sport aujourd'hui parce qu'on n'avait pas le créneau, parce qu'il pleuvait. Ça doit être, c'est une matière obligatoire de savoir-être. On apprend tellement de choses quand on fait du sport. C'est une priorité. La fabrique du collectif, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, chaque école de ce pays... du plus jeune âge, là nos amis ont des innovations, mais c'est une priorité nationale. Arrêtons de dire à chaque fois 30 minutes, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que ça devienne
une discipline quotidienne.
Obligatoire et que ça soit pris extrêmement au sérieux parce que c'est aussi important que les maths, c'est aussi important que le français, un club de sport qui marche bien, c'est aussi important qu'un collège.
Jean?
Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on avait 2 heures de sport, mais en fait, entre le bus, le métro, le vestiaire, on faisait
un quart d'heure de sport. Mais c'est comme la piscine, entre le moment où on y va et le moment où on repart, les enfants font parfois 20 minutes de piscine maximum.
C'est pour ça que je préfère avoir 30 minutes de sport effectif, simple et efficace, qu'un créneau de 2 heures où en fait, ça ne marche pas. Mais je pense que même ce principe, il est valable dans les entreprises. Moi, je le vois chez Phoenix, de plus en plus de nos salariés. Mangent croque sur la pause déjeuner pour aller faire un footing, aller à la salle de sport.
Et ils sont plus efficaces après.
Un petit break, une demi-heure par jour de sport,
ils se sentent mieux.
Voilà, c'est plus efficace, on travaille mieux l'après-midi, tout le monde est plus en forme. Donc je pense que c'est un principe qui est très bénéfique.
Céline, je crois qu'on a reçu des questions, des réactions sur Twitter.
Oui, on a une question de Marc, hashtag Europe 1, qui dit « Mes enfants ont eu la chance de participer au baby gym quand ils étaient petits. Plus grands, ils ont fait de la natation avec beaucoup d'assiduité et de facilité. Pensez-vous, question pour nos invités, qu'il y a une relation de cause à effet ?»
Alors, ben, Olivier Chazot, tiens, puisque... Ah non, Baby Jim. Non, François Gabel, François Gabel.
On va commencer par le côté terrestre. Bon, c'est vrai que les enfants vont prendre confiance en eux dans un développement sur des activités qui leur permettent aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de prendre confiance en soi pour la natation. Et il y a effectivement une relation cause à effet dans ce sens-là. Si nous, on fait une étude verticale de tous les enfants qui sont passés par la Baby Gym depuis le début, on a actuellement une fille qui a commencé chez nous et qui est en équipe de France en préparation pour les JO de Tokyo en gymnastique. Oui. Alors, ce n'est pas vraiment le cause à effet, mais on l'a facilité.
Oui, de façon, plus on commence tôt, c'est le credo, plus on commence tôt, plus on va prendre des bonnes habitudes et on va justement... comme on en parlait tout à l'heure, avoir un avenir qui sera le plus radio possible. Ça, c'est essentiel de commencer le plus tôt possible, que ce soit la noyade, la natation.
La natation. Hein.
Et la natation, évidemment, c'est une évidence.
Jean-Philippe Assinzi, avec le boom, l'explosion des salles de fitness en ville, même si on fait du sport, on n'est pas un petit peu en train de perdre cette notion du collectif, cette notion des défis à relever?
C'est pas la même chose.
Mais ça reste du sport.
Oui, ça reste du sport et c'est intéressant pour la santé. Mais c'est vrai que moi, qui suis un ancien préparateur physique, quand je vois les gens avec leur casque, sur leur vélo, etc., on est sur du sport santé. On n'est pas sur une pratique sportive où on travaille le collectif, où on est dans un espace avec des gens, où les valeurs sont pas les mêmes. Le sport, c'est bien, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe quand on fait une pratique? C'est toutes ces valeurs. Finalement, la finalité, c'est quand même les valeurs que l'on apprend.
La finalité, c'est de gagner? Quand on est dans le collectif, vous leur enseignez quoi?
Non, absolument pas.
D'avoir perdre.
La finalité, vous savez, quand on est dans un club de sport, on apprend la diversité, on apprend à se maîtriser, on apprend, on le disait, à se fixer des défis, on apprend énormément de choses. Et la défaite, l'apprentissage de la défaite, la victoire comme la défaite, c'est... pour la vie, c'est extrêmement important de savoir perdre. Donc, on a peut-être mis trop l'accent sur le très haut niveau, sur la performance. Nous, on parle de performance sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, c'est important.
Jean ?
Et pour les jeunes parents ou pour les parents, quelle est votre recommandation ? C'est que chaque enfant fasse à la fois un sport collectif et un sport individuel, où il n'y a pas de règles et on apprend la même chose dans les deux ?
Non, moi, je dirais aux parents, veillez à la qualité de l'éducateur. Veiller au lien qu'il entretient avec l'enfant, avec le jeune. Qu'est-ce qu'il transmet? C'est l'éducateur qui est le socle de tout ça. Un mauvais prof de maths, il va vous dégoûter des maths toute votre vie. Un bon prof d'athlétisme, vous allez vous en souvenir toute votre vie parce qu'à travers la pratique, il va vous faire passer des messages, il va être derrière vous, ça va être un tuteur, un parrain, il va vous marquer.
Et vous avez l'impression que justement les choses sont en train de changer, vous êtes là-dedans depuis de nombreuses années, est-ce que les mentalités sont en train de changer?
Alors il y a plusieurs choses qui changent, il y a un rapport au corps aussi qui est différent, puisque on était quand même dans une société où il y avait des tabous dans le fonctionnement, même il y a 30 ans, faire du sport à des moins de 6 ans, c'était hors de question. Donc on manquait aussi d'informations. Nous, par exemple, toutes nos activités ont été calées sur la croissance de l'enfant. Par exemple, il est interdit de faire des grands écarts, des choses comme ça, puisque le squelette n'est pas encore formé à cet âge-là. Et donc, il y a une approche au corps, déjà, qui est en train de se modifier. Et ça, les familles commencent à le sentir.
Les familles et les directeurs d'école, on espère aussi, hein, qu'ils vont prendre le problème à bras-le-corps. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus nous présenter vos innovations, vos idées, votre énergie concernant le sport et les enfants. On ne le dira jamais assez, hein, le sport, c'est essentiel pour garder la forme et ça commence dès le plus jeune âge pour garder la forme et aussi pour savoir s'insérer dans notre société. Et c'est ça, la France qui bouge. Il est 13h48.
Europe 1.
Elle évite 650 gobelets par personne et par an. Elle est éco-responsable, elle est personnalisable. Gobi, c'est la seule gourde made in France et c'est aussi l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1.
Et c'est l'heure, Elisabeth Assayag, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Bonjour Florence Beitinger. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Gobi. Alors Gobi, pour ceux qui nous suivent sur europe1.fr, ce sont des gourdes, mais pas n'importe quelle gourde. Ce sont des gourdes personnalisables, éco-responsables. Est-ce que vous pouvez déjà nous les décrire pour ceux qui ne la regardent pas?
Et Made in France, puisqu'on est dans la France,
évidemment.
On est la seule gourde Made in France, donc je le précise tout de suite. C'est effectivement une gourde alors transparente, qui est personnalisable à l'intérieur, puisqu'on l'a conçue il y a déjà 10 ans pour remplacer les gobelets jetables dans les bureaux. On a à peu près 650 gobelets jetables par personne chaque année dans un bureau, ou autant de petites bouteilles jetables quand on utilise tous les jours. Et on s'est dit, nous, il y a 10 ans, il y a sans doute quelque chose de plus intelligent à inventer. Et ce petit système de personnalisation à l'intérieur permet à chacun de distinguer sa gourde de celle de son voisin, puisque les premières questions qu'on avait posées dans des entreprises qui avaient déjà fait le test, c'était quand on craint de confondre sa bouteille ou sa gourde avec celle de son voisin, on n'y touche plus parce qu'on a beau bien s'aimer, on n'a pas envie de partager ces microbes. Il y a aussi une petite anse pour la porter facilement. Mmh, enfin, ouais. C'est plein de détails auxquels on a pensé, mais pour qu'elle soit vraiment facile d'utilisation tous les jours.
Elle est unique, à part le fait qu'elle soit fabriquée en France.
Alors, elle est unique
dans
parce que
système.
Oui, parce qu'aussi on est créateur de nos produits. C'est assez rare pour être souligné. La plupart des gourdes qui sont sur le marché, elles sont sourcées en Chine, et puis ensuite on se contente d'y mettre un logo. Nous, on l'a vraiment pensé avec un designer. On l'a pensé en fonction des usages auxquels on l'a destiné. Ensuite, on l'a éco-conçu. C'est un travail de 9 mois où en fait on pose tous les enjeux de production sur la table avec des experts du cycle de vie.
Elle est en quoi?
Alors, c'est un plastique réutilisable qu'on a choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait un impact environnemental de fabrication très faible. Ce qui fait que pour des débutants en gourde, comme c'est le cas souvent dans les bureaux, au bout d'à peine trois mois, en fait, vous avez compensé, grâce aux bénéfices de l'utilisation, les impacts de fabrication. C'est beaucoup plus long pour une gourde en inox, sur laquelle il va falloir aller chercher des minerais, transformer en sidérurgie, etc. Donc, on avait aussi fait ce choix en se disant, il faut que ce soit facile et assez faible en impact de fabrication pour que le bénéfice soit très rapide. Après, évidemment, c'est un matériau qu'on a testé sur le plan sanitaire, dans lequel il n'y a pas de bisphénol, pas de migration, etc., et qui est totalement recyclable en fin de vie.
L'entreprise a été créée en 2010.
Oui.
Elles sont toutes fabriquées en France, je crois, dans le Val-de-Marne, c'est ça?
Oui, alors le modèle actuel de Gobi, qui est le même depuis le début, donc celui que je viens de décrire, est fabriqué à 40 km de Paris, ce qui est aussi intéressant parce qu'on travaille, nous, en grande majorité avec des entreprises, et beaucoup avec des entreprises dont les sièges sont en Île-de-France.
Et vous les faites assembler aussi dans un ESAT. C'est
voilà,
important de le souligner, voilà. Il y a un engagement aussi derrière.
Oui, par des personnes en situation de handicap, et ce qui est aussi une belle fierté dans notre histoire, c'est que on est aujourd'hui l'activité principale de cet ESAT. On va à une deuxième équipe qui va travailler sur nos produits. C'est un produit qui est valorisant pour eux, puisque c'est assemblé, c'est destiné à un grand public par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc c'est une belle histoire aussi avec cet ESAT avec qui on travaille depuis 6 ans.
Et vous travaillez aussi avec l'ADEME pour mieux recycler?
Oui, alors l'ADEME nous a accompagnés dès le début, puisqu'il y a très peu de petites entreprises qui se lancent dans une approche d'éco-conception à l'ADEME Île-de-France. Ça les intéressait aussi parce qu'on est évidemment sur un projet qui est de réduction des déchets. Là, l'idée, en 2010, on parlait encore beaucoup uniquement de recyclage. Ce qu'on a vu depuis, c'est ces continents de plastique dans les océans. En fait, ils sont majoritairement alimentés par du plastique à usage unique, de l'emballage jetable. Donc, on était déjà il y a 10 ans, nous, sur un projet non pas de recyclage, mais de réduction à la source. Quels sont les déchets inutiles qu'on peut éviter et remplacer un gobi? Donc 650 par an, ça fait plusieurs milliers sur plusieurs
donc
années.
Donc ça fait faire en plus des économies aux entreprises. C'est ça là, votre
Oui, même s'il y a un petit
solution.
Investissement de départ, puisque en général, l'achat de gobelets jetables, il est noyé dans le loyer de la fontaine à eau ou sur les palettes.
Oui, mais c'est en train de changer. Ouais. Vous le changez, vous le trouvez et vous le remarquez qu'il y a du changement de la part des entreprises. Oui, il y a quand même une responsabilité.
Oui, là,
il y a une
ça
prise
fait quelques
de conscience.
Années. Oui, ça change effectivement assez rapidement.
Jean, notre coach.
Alors nous, c'est un projet qu'on connaît bien et qu'on adore, puisqu'il est comme Phoenix dans l'anti-gaspillage et les zéro déchet. La question que j'avais, c'est, vous êtes lancé il y a 10 ans.
Oui.
Est-ce que c'était pas un peu trop tôt par rapport à un marché qui est devenu mature, mais qui l'était peut-être beaucoup moins il y a 10 ans? Est-ce que vous avez senti un basculement?
On a beaucoup évangélisé le marché. Après, je pense que la bonne idée qu'on a eue, c'est de ne pas se lancer sur le marché grand public il y a 10 ans, qui était très loin d'être mature en France, mais de commencer par les entreprises.
Avec les entreprises.
Ouais, où en fait, on s'était dit, il y a aussi fait dans une entreprise un espace de communication qui est très qualitatif, c'est-à-dire que pour accompagner le changement, on peut assez facilement donner des outils, des posters, des affiches pour expliquer et accompagner les changements. Le plus compliqué dans l'adoption d'une gourde, c'est de prendre le pli de l'entretenir et de bien l'entretenir. Et nous, on insiste beaucoup, mais la gourde vraiment efficace, nous évidemment, on l'a éco-conçue, on a fait en sorte qu'elle soit super, mais la seule gourde qui sera efficace sur le plan environnemental, c'est la gourde qui est utilisée le plus possible et tous les jours. Donc, il n'y a pas un meilleur matériau, etc. Enfin, nous, évidemment, on crée de l'emploi en France, on a aussi un impact positif, mais on sort aussi un modèle en verre, on est en train de travailler sur un modèle en inox. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir proposer un large choix pour que chacun trouve le modèle qui lui correspond.
Et la suite, alors, c'est quoi? Je crois que c'est les couverts, les verres.
Ouais, donc il y a ce modèle en verre. Voilà, ce modèle en la gourde verre qu'on sort là au printemps. Et on a aussi des couverts en inox qu'on fabrique dans la vallée historique de la Coutellerie en France vers Thiers, avec une maison multiséculaire. Donc on est vraiment ravis. Ce sont des petits couverts en inox dans un étui en gobie recyclé, donc facile à emporter, facile à laver, pour continuer en fait sur ce chemin de la diffusion de produits. Nous, on dit des produits qui font du bien, parce qu'ils font plaisir, qui sont beaux, qui font du bien à la planète, à ses habitants et à ceux qui les utilisent.
Dernière question, combien de gobies vendues ?
On est à peu près à 750 000, ce qui doit faire facilement aussi en impact 2000 tonnes de déchets évités, mais je pense à peu près 7000 tonnes aussi de CO2 évitées. Parce que c'est ce que vous évitez en impact, c'est pas que les déchets, c'est aussi toutes les pollutions associées à la fabrication du jetable.
Merci Florence Bétinger, vous êtes la fondatrice de Gobi, Gobi, l'entreprise qui va bien. C'est la fin de votre émission. Merci Jean Moreau d'avoir joué le coach. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'appli anti-gaspi Phoenix. Merci Dora Nana, à demain.
À demain Elisabeth.
Et à demain Céline.
À demain Elisabeth Assayag. C'était La France Bouge avec BNP Paribas. Vous voulez créer votre entreprise, BNP Paribas est à vos côtés pour lancer le projet auquel vous croyez. Rendez-vous sur lancezvous.bnpparibas. Dans un instant, c'est Christophe Ondelat sur Europe 1.